Carnet de Campagne, bonjour. Pour respecter notre feuille de route, nous allons passer la semaine dans le département de l'Essonne. Il est tout jeune, il fête d'ailleurs ses 50 ans puisqu'il est né un 1er janvier 1968 des suites du démembrement de l'ancienne Seine-et-Oise. 1 250 000 habitants vivent dans ce petit département au sud de Paris avec pour principale grande ville Évry, Corbeil-Essonne, Palaiseau et aux portes de la Beauce, Étampes, la rurale comparée aux autres par sa dimension et son implantation. Nous appellerons tout à l'heure Gérard Delattre, qui préside l'ADER, Association de Défense des Rigoles et Étangs, sur le plateau de Saclay. Un projet un peu fou, mais très écologique et historique de ce collectif est de réhabiliter le réseau d'eau du plateau de Saclay qui alimentait les fontaines du château de Versailles. Mais tout d'abord, place au beau travail d'alimentation des épiceries solidaires réalisées par l'association Revivre Île-de-France, présidée par Franck Roblin, premier invité de ce carnet essonien.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Franck Roblin, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Franck, président de l'association Revivre, dites donc qu'il y a un bel âge, ça fait bientôt 25 ans qu'elle existe.
Exactement, on fêtera les 25 ans en 2018.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cette association a été créée en Île-de-France par François-Marie Luquet, qui fut directeur de recherche chez Danone.
Voilà, exact. Alors lui, il a constaté qu'il y avait un certain nombre de gaspillages, de produits qui n'étaient pas réutilisés, qui étaient jetés, et il s'est dit, écoutez, moi, quand je serai en retraite, ce serait peut-être intéressant que je vois comment on peut réutiliser ces produits. Et donc, il a créé cette association en 1993, dans un premier temps pour effectivement redistribuer auprès des démunis les produits qui étaient voués à être jetés.
Oui. Et depuis 93, vous avez ouvert, j'imagine, votre partenariat.
Oui, il y a un certain nombre de partenaires qui sont venus nous rejoindre, des partenaires au sens fournisseur, mais également des partenaires clients.
Oui.
Et des partenaires institutionnels. Enfin, je dirais qu'il y a tout un tas de réseaux qui se sont constitués au sens, bien sûr, des fournisseurs pour récolter des dons en partie, et puis bien sûr étendre notre réseau de distribution vis-à-vis donc des épiceries sociales et des CCAS de mairie, entre autres.
Oui.
Et à côté de ça, il y a effectivement un réseau institutionnel qui s'est créé pour se faire connaître, pour essayer de collaborer ensemble à un certain nombre de projets et d'avoir ce qu'on a réussi à avoir chez Revivre, c'est-à-dire une habilitation nationale. Oui. Et une reconnaissance d'intérêt général également qui peut être intéressant pour un certain nombre d'industriels à travers les doigts.
Bien sûr. Alors, dans les fournisseurs, il y a plusieurs filières. Il y a d'abord la filière agricole.
Oui. Alors, il y a la filière agricole dans un premier temps qui est une filière pour ce qu'on appelle nous les produits frais, c'est-à-dire les fruits et légumes.
Oui.
Pour ce faire, on travaille en partenariat avec la SOLAL, qui est une organisation agricole intermédiaire entre les producteurs puis les associations pour redistribuer effectivement les surplus de production.
Et puis l'autre filière, alors je ne sais pas si elle vous concerne, c'est la grande distribution.
La grande distribution fait partie effectivement de nos partenaires à travers essentiellement un dépôt qui est un dépôt de l'Île-de-France pour une grande surface, avec qui on a signé une convention, pour lequel on a tous les 15 jours un certain nombre de palettes de produits invendus que l'on se cherche donc de redistribuer auprès des épiceries sociales et des CCAS.
Il y a combien aujourd'hui de plateformes de Revivre?
Il y a 3 plateformes en France. Il y a Revivre Île-de-France dont je suis président, il y a Revivre Rhône-Alpes et Revivre à Toulouse.
En 2016, plus de 1800 tonnes de produits distribués à 350 associations partenaires.
1800 tonnes, ça devait être à peu près ça au point de vue des 3 Revivre, regroupement des 3 sur la France. Mmh. En Île-de-France, il y a à peu près 180 partenaires clients que l'on distribue chaque mois. Ça correspond à peu près à 15 000 familles qui bénéficient effectivement de cette distribution.
Et alors, vous avez mis au point 2 choses drôlement bien, Franck. C'est d'abord dans le sud de l'Essonne, le service d'épicerie itinérante que vous appelez Tournée Village, oui, avec des chauffeurs-livreurs en insertion professionnelle.
C'est effectivement une des caractéristiques de l'association de Revivre de France, c'est qu'effectivement, hormis d'être une association humanitaire de distribution de produits alimentaires, elle est aussi entreprise d'insertion. Et à ce titre, effectivement, il y a un certain nombre de salariés en insertion qui œuvrent tous les jours à faire les préparations de commandes, bien sûr, mais également à charger et à livrer au pied de chaque épicerie les produits. Et dans ce contexte-là, il y a une initiative, effectivement, qui s'appelle Tournée Village, et nous distribuons donc des paniers, ce qu'on appelle des paniers de fruits et légumes, à peu près de 6 kilos, toutes les semaines. Ces paniers sont distribués dans les CCAS de mairie, qui sont, je dirais, des communes éloignées, éloignées des structures d'accueil qui peuvent exister, et dont les personnes démunies, ayant des difficultés de mobilité, ne peuvent pas se rendre. Et donc, on vient, j'irai à leur porte, leur porter ce panier-là.
Ouais. Et puis, alors, deuxième chose, donc à l'Imhôtel, où là, vous livrez des colis aux familles hébergées à l'hôtel.
Voilà, ça a 2 ans maintenant. C'est un projet qui est au stade d'expérimentation, hein, qui est financé par la DRIL et qui, je dirais, est un constat qui a été fait par le rapport INFAMS de distribution donc hebdomadaire de colis aux personnes hébergées à l'hôtel par l'État. Mmh. Et dans l'Essonne. Aujourd'hui, cette expérimentation a été cantonnée uniquement à l'Essonne.
Vous avez le projet de l'étendre, hein, de toute façon.
Voilà, c'est ça. Le but, effectivement, c'est de voir avec les autorités de l'État comment, effectivement, cette expérimentation peut prendre son envol et se déployer en Essonne, mais également dans les départements limitrophes de Paris.
Bravo pour ces initiatives, chouette initiative. Le site, c'est revivre-monde.org. Vous allez avoir aussi en prime l'adresse électronique de Revivre Île-de-France, présidée par Franck Roblin, président bénévole. On s'en doute un tout petit peu, même grandement. Merci Franck.
Mais je vous en prie. Au revoir Philippe Bertrand.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Encore un exemple de prise en charge par des particuliers d'une cause qui ne trouve pas vraiment de solution globale, organisée ou institutionnalisée, à savoir gagner l'inclusion de personnes et surtout d'enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, selon une formule fréquemment usitée de TSA. Cela se passe à Étiole, en Essonne, là où des parents ont ouvert, après 2 ans de préparation, ce qu'ils appellent l'écolalie, soit un service de soins à domicile destiné, je cite, à favoriser l'inclusion des enfants dans leur environnement. Mise en avant sur le site du département de l'Essonne, cette expérience est née d'un couple donc d'Essoniens qui a fondé son association d'information et d'entraide avant d'ouvrir un dispositif d'accueil à leur domicile. Après donc 2 années d'expertise, le couple a obtenu un agrément de service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. Et depuis cette fondation, l'association réunit 2 psychologues spécialisés en autisme, 2 intervenants à temps complet pour accompagner 18 familles. L'ambition de la maison Écolalie est d'adopter un programme qui débute par un accompagnement de l'enfant dans son école en première partie de journée avant de retrouver l'après-midi une équipe pluridisciplinaire pour des activités sur mesure, individuelles ou collectives. Au total, c'est un programme de 30 heures par semaine qui est mis au point et qui est totalement pris en charge par l'État. Si vous voulez en savoir davantage, c'est ecolali.fr. Alors, ça s'écrit avec ES à la fin, ecolali.fr. Gérard Delattre, bonjour.
Bonjour.
Gérard, j'étais interpellé par la lettre de Annie qui prône un coup d'œil sur votre association ADER, Association de Défense des Rigoles et Étangs. Alors, explication, j'étais quand même surpris de savoir qu'on pouvait alimenter encore les fontaines de Versailles avec de l'eau traitée. Or, elle dit de l'eau potable, c'est pas tout à fait de l'eau potable, mais il y a véritablement un gâchis quand même là.
Oui. Là, effectivement, mais on essaye actuellement de faire la promotion de la restauration de ce système qui, en fait, est amorcé. Cette restauration est amorcée depuis, disons, une 15aine d'années à peu près. C'était des décisions au niveau des pouvoirs publics, mais c'est une restauration qui a du mal à avancer.
Oui.
Donc, on a relancé maintenant une action auprès des pouvoirs publics pour pousser à ce que ce système soit restauré le plus rapidement possible.
Ouais.
Alors, l'intérêt de ce système, c'est que c'est un système purement gravitaire, avec pour amener les eaux à Versailles à partir des eaux, simplement des eaux de pluie.
Ouais.
Donc, c'est la récupération des eaux de pluie sur l'ensemble du plateau de Saclay, le stockage dans un certain nombre d'états et l'amener de ces eaux part, au total, c'était une soixantaine de kilomètres de rigole, une dizaine de kilomètres d'aqueduc souterrain. C'est aussi donc un patrimoine discret et c'est la raison pour laquelle il était un peu difficile d'intéresser le public. Il y a toutefois quand même un monument important, c'est que pour arriver du plateau de Saclay à Versailles, il faut traverser la vallée de la Bièvre, qui est très encaissée, et là, Thomas Gobert lui-même a également, qu'il était architecte, il a également fait un aqueduc aérien pour traverser la vallée de la Bièvre, et un aqueduc aérien relativement discret, parce qu'il y a toute une arcade qui est enterrée pour lui donner de l'assise. Mais c'est un aqueduc comparativement au pont du Gard qui est plus important que le pont du Gard.
On découvre ça. Alors Thomas Gobert, quand même une petite précision. Donc c'est l'ingénieur à l'origine de ce réseau, de l'édification de ce réseau absolument moderne qui peut refonctionner sans souci. Mais là, les seuls soucis, c'est quand même les travaux à réaliser, le coût des travaux. Et il y a le facsimilé du livre de Thomas Gobert qui vient de reparaître.
Oui, c'est ça. C'est nous qui l'avons lancé. Le facsimilé. Tout à fait par hasard, il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur un original de cet ouvrage, un ouvrage de 1702, et qui est assez extraordinaire.
Et alors, quels moyens vous avez pour reconstituer ce réseau? Parce que je disais, c'est quand même un chantier titanesque.
C'est un chantier important. Il faut savoir que c'est quand même, il y a eu une étude au niveau des pouvoirs publics et notamment par l'Agence de l'eau. Là, en fait, ce qui se passe, et on est tout à fait d'accord sur le principe, les pouvoirs publics profitent de tout aménagement pour restaurer au fur et à mesure ce réseau.
Oui. Mmh.
Actuellement, notamment, il y a une dérigole importante qui traverse la partie sud du plateau où a commencé à s'implanter dans le cadre de l'opération d'intérêt national, a commencé à s'implanter le campus. Là, au fur et à mesure, la rigole est reprise aux endroits où elle était, disons, abîmée.
Mmh.
Et notamment, il y a eu un certain nombre d'aménagements routiers qui l'ont coupé à plusieurs endroits. Donc, il faut rétablir au fur et à mesure des besoins, des travaux qui se font, rétablir ces continuités. Et il y a un syndicat intercommunal qui a été créé dans ce but.
Alors, si vous voulez en savoir davantage, suivre les évolutions, les démarches de l'association de défense des rigoles et étendues du plateau de Saclay, avec cet enjeu historique de reconstitution du réseau pour avoir une alimentation directe naturelle en récupérateur d'eau des fontaines de Versailles, l'adresse c'est adhère-saclay-versailles.com. Et vous pourrez entrer en relation avec le président de l'association, Gérard Delattre. Merci Gérard.
Je vous en prie, au plaisir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Lorsque Santiago Mendieta lançait il y a 6 ans dans nos carnets son projet de revue annuelle sur la Méditerranée, il se doutait pas encore que la mer allait être le théâtre des pires mouvements de migration de ce début de siècle. Elle s'appelle Gibraltar, sous-titrée un pont entre deux mondes à base de récits, de reportages, de fictions. Cette revue qui tient davantage du MOOC, c'est entre magazine et livre, 180 pages, sans publicité, et propose des approches culturelles, sociales, économiques des mondes méditerranéens, parfois au-delà, selon les dossiers abordés. Le numéro 6 qui vient de sortir navigue entre passé et actualité, le passé avec l'histoire étonnante de cette station thermale espagnole, la Isabella, engloutie sous les eaux lors de l'inauguration d'un barrage sur ce plateau castillan en 55. Puis l'actualité, c'est le périple d'une famille syrienne, celle d'Amad, qui avec femme et enfants ont quitté la banlieue de Damas pour accoster sur l'île grecque de Kos avant de traverser les Balkans, l'Allemagne, le Danemark et puis de reconstruire enfin une nouvelle vie en Suède. Ce numéro comprend aussi des textes de fiction, des bandes dessinées et puis une rencontre avec Jean-Baptiste Lidouban, vieux militant de 83 ans depuis son haut de Languedoc, qui raconte ses engagements dans la non-violence, le mouvement des faucheurs volontaires ou la communauté de l'Arche. À lire à tout prix, Gibraltar, trait d'union revue.com,